prière. Nous voulons demander au Seigneur de nous préparer à recevoir sa parole. Tu es celui qui déplace les montagnes, quelle que soit leur hauteur. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui transforme, qui change l'obscurité en lumière. Seigneur, tu restes et demeures le Dieu des miracles. C'est lui qui n'a pas encore fini avec nous. C'est lui qui n'a pas encore fini de nous émerveiller. Ce matin, nous voulons nous laisser émerveiller par ta présence. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, savourer ta présence avant de pouvoir te tendre une oreille attentive afin de recevoir ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Seigneur, merci de nous aider, ô Dieu, à avoir des oreilles très attentives à toi, Seigneur, afin de recevoir ta parole et de permettre à ta parole de descendre dans nos cœurs et d'y apporter la bénédiction dont nous avons tant besoin. Parle, Seigneur, et fais du bien à chacun de nous au travers de ta parole. Merci d'assister également ton serviteur, Seigneur, alors qu'il se tient devant ton peuple pour lui partager ce qui vient de toi. Merci, Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions aller à la découverte de certains préalables, à la découverte de certaines conditions que nous devons absolument remplir en amont pour pouvoir expérimenter toutes sortes de bénédictions en aval. Les choses de Dieu ne se reçoivent pas comme à l'aventure, comme par hasard. Voyez-vous, il y a toujours un processus à suivre. Il y a toujours quelque chose que nous devons faire qui permette alors à Dieu de pouvoir nous rencontrer dans notre démarche de confiance totale et absolue vis-à-vis de lui. Je voudrais donc parler ce matin de la condition préalable pour expérimenter la bénédiction divine. Amen. Nous cherchons tous à être bénis, oui ou non? Nous cherchons tous, nous aspirons à la bénédiction. Il n'y a personne qui est né pour être maudit. Pas du tout, mes amis. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le désir du Seigneur pour chacune de nos vies. Et nous allons le voir. Ce qu'il veut, c'est que nos vies prospèrent. Ce qu'il veut, c'est que nos vies connaissent un épanouissement et un développement holistique. Ce qu'il veut, c'est que nos vies, mes amis, puissent aller de gloire en gloire. Alléluia. Mais pour cela, il y a des choses que nous devons absolument faire. Pour cela, il y a une démarche que nous devons avoir en amont afin d'expérimenter en aval toutes sortes de bénédictions. Nous allons aller dans le premier livre de la Bible où tout a commencé. Vous ne pouvez pas comprendre la suite, mes amis, de ce qui se passe dans la Bible. Si vous ne savez pas exactement ce qu'il y a eu au départ, quel a été le projet de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, quel a été son dessein vis-à-vis de l'humanité, cette humanité qu'il a faite à son image et à sa ressemblance. Nous sommes donc au premier chapitre du livre de la Genèse. Nous allons lire juste trois versets, à savoir les versets 26, 27 et 28. Genèse, chapitre 1er, nous lisons. Verset 26, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Aussitôt, après avoir créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, nous voyons que le Créateur de toutes choses prononce une bénédiction. Il accorde une bénédiction. Et lorsque Dieu dit quelque chose, cela finit toujours par devenir une réalité tangible et palpable. Alléluia. Dieu les bénit. Comme notre thème l'indique, il y a donc un préalable à toute expérimentation de la bénédiction de Dieu. Et comme vous le savez, un préalable, c'est quoi? C'est ce qui doit être fait d'abord. C'est-à-dire, rien ne peut se passer en aval si quelque chose n'a pas été fait au préalable en amont. Donc, quand nous parlons de préalable, eh bien, nous parlons de ce qui doit se passer avant toute chose. Ce qui va enfin permettre à la grâce abondante de Dieu de couler sur nous comme un torrent. Ce qui va permettre à la faveur de Dieu de se transformer en de bénédictions réelles. Et qu'entendons-nous par bénédiction? Eh bien, par bénédiction, nous entendons tout ce que Dieu nous donne et qui contribue à notre épanouissement, tout ce que Dieu nous donne qui contribue à notre développement intégral, tout ce que Dieu nous accorde et qui nous rend heureux, tout ce qu'il permet, mes amis, et qui travaille à notre bonheur. Et bénédiction, tout ce qui contribue à notre prospérité, et ce sur tout le plan, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan conjugal, sur le plan familial. Et bénédiction, tout ce qui nous apporte, qui nous amène à connaître un certain succès dans notre vie personnelle, dans nos affaires, dans nos études, dans notre travail, dans nos responsabilités, quelles qu'elles soient. Et bénédiction, tout ce qui nous ouvre grandement la porte de l'élévation, ce qui nous amène à aller d'élévation en élévation. Tout cela, eh bien, est appelé par la parole de Dieu, la bénédiction. Et bénédiction, eh bien, tout ce qui nous apporte la victoire sur les instincts charnels du corps, la victoire sur les différentes épreuves, la victoire face à telle ou telle autre adversité. Voyez-vous? Oui, tout ce qui contribue en substance à notre bonheur, tout cela s'appelle bénédiction. Et lorsque le Seigneur accorde la bénédiction, bien, il donne tout à l'homme et à la femme pour qu'ils soient heureux là dans le jardin d'Éden. Il leur donne toutes les capacités, il leur donne tous les moyens, mes amis, pour pouvoir s'épanouir dans l'espace et dans le temps. Et oui, lorsque nous entamons un pèlerinage à travers la Bible, pèlerinage qui débute dans le livre de la Genèse, le premier livre, qui ouvre donc cette révélation écrite de Dieu à l'humanité, eh bien nous nous rendons tout de suite compte d'une chose, c'est que le Dieu de la Bible, qui est donc le créateur de toutes choses, le Dieu de la Bible qui est l'auteur suprême de tout souffle vital, ce souffle qui anime tous les êtres vivants, ce Dieu-là se révèle à travers toute la parole, de la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse. Il se révèle donc comme étant le Dieu qui bénit, le Dieu qui éprouve du plaisir à prononcer des paroles de bénédiction, le Dieu qui éprouve du plaisir, mes amis, de la joie à accompagner l'homme afin de le rendre heureux, de lui donner la prospérité dans tout ce qu'il entend. Dieu l'a créé pour la bénédiction et non pas pour la malédiction. Le Verbe maudire a commencé à exister après que le péché, hélas, soit entré dans le monde. Mais avant cela, il n'y a qu'un seul Verbe qui était conjugué, non seulement là-haut, mais également ici sur terre, dans l'espace et dans le temps, intimement attaché à la nature même de Dieu. Et le Seigneur, alléluia. Nous voyons donc qu'il crée l'homme et la femme. Aussitôt que l'homme et la femme voient le jour ou viennent à l'existence, eh bien le Seigneur les destine de facto à la bénédiction. Il destine l'être humain à la bénédiction. Ça veut dire que l'homme est appelé, selon le plan de Dieu, à prospérer à tous égards. Selon le plan de Dieu, à connaître un plein épanouissement dans tous les domaines de sa vie, voyez-vous. Et tout au long de la Bible, nous voyons que le Seigneur de gloire, le Dieu d'éternité, Yahvé Tsevaot, eh bien se révèle comme le Dieu qui bénit, qui accorde à l'homme sa faveur. Et il le fait non pas avec un cœur serré, il le fait avec joie, car celui qui a voulu que l'homme, tout en étant un être limité dans l'espace et dans le temps, eh bien, soit un être singulier, c'est-à-dire qui lui ressemble, un être fait à son image. Il est important, mes amis, de réaliser la singularité de l'homme. L'homme que Dieu aime est tout singulier. Voyez-vous, il est le seul être ici sur terre à pouvoir se mouvoir aussi bien dans l'espace et dans le temps, mais aussi sur le plan spirituel. Il est celui qui interagit non seulement avec son environnement sur le plan horizontal, mais il est aussi celui qui interagit sur le plan vertical avec son Créateur. Et toute son existence s'articule autour de ces deux axes. Oui, c'est dans la nature de Dieu. Oui, c'est dans la nature de notre Sauveur de faire du bien à chacun de nous, de faire du bien à l'homme, de lui communiquer sa faveur divine, de lui donner tout ce dont il a besoin pour une vie réussie, pour une vie pleine de succès, pour une vie, mes amis, plus épanouie, pour une vie victorieuse. Oui, Dieu veut tout cela. Alléluia. Ce qui nous amène à dire que cette aspiration qu'il y a dans le cœur de l'homme, cette aspiration à la bénédiction, est une aspiration tout à fait légitime. Si vous aspirez à réussir, eh bien, sachez que cela est consubstantiel à votre nature, faite à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Alléluia. Cela est inhérent. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir connaître le succès dans sa vie. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir réussir. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de nos aspirations les plus légitimes. Voyez-vous? Oui, le Dieu que nous sommes venus rencontrer ce matin. Le Dieu qui un jour nous a sauvés en nous arrachant des griffes du diable. Ce Dieu-là, oui, est un Dieu de bénédiction. Un Dieu qui bénit. Alléluia. Il accorde sa bénédiction non seulement aux individus, mais également aux nations. Prenez le cas d'Israël. Israël n'a rien fait de spécial. Dieu a jeté son dévolu sur lui afin que par et au travers de ce peuple hébreu, eh bien, l'humanité puisse avoir accès à la vie véritable, à la révélation qui sauve. Mais il accorde, oui, aussi bien sa bénédiction aux individus comme aux nations. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays. Priez, mes amis, pour que Dieu bénisse ce pays. Nous devons prier pour nos nations. Les nations ont besoin de Jésus. Il est celui qui se révèle comme étant la lumière qui éclaire les nations. Aujourd'hui, les nations sont de plus en plus plongées dans toutes sortes d'épaisses ténèbres. Les nations, mes amis, s'éloignent, se trouvent sur une pente dangereuse qui les conduit tout droit vers la destruction, parce que les nations tournaient le dos au Seigneur Jésus. Mais un jour viendra où ce Jésus, un jour viendra où il descendra pour juger les nations. Amen. Oui, il est le Dieu qui bénit. Prenez le cas d'Abraham, notre patriarche dans la foi. Quand le Seigneur se révèle à lui, dans Genèse chapitre 12, eh bien, il lui donne tout de suite des promesses. Et dans ces promesses-là, nous voyons des bénédictions. En d'autres mots, il met des bénédictions à sa disposition. Que lui dit-il? Eh bien, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Tout de suite, il montre sa couleur. Tout de suite, il montre son cœur à Abraham. Je viens me révéler à toi. Dans le but de te bénir, dans le but de faire ton nom grand. Oui, nous devons chercher la grandeur qui vient de Dieu. Nous pouvons être grands sur cette terre et être de véritables nains devant Dieu. La grandeur d'ici-bas est éphémère. Tôt ou tard, elle s'annihilera. On en parlera un tout petit peu dans l'histoire, pendant quelques années, quelques décennies, peut-être pendant un siècle. Après, ça sera fini. Il faudra aller dans les livres, les manuels d'histoire. Et encore, pour qu'on se rende compte de notre existence, pour qu'on sache qu'il y a eu, à une certaine époque, à la tête de l'Église, d'abord un certain Joseph Bondo Kasongo. Voyez-vous? Oui, la grandeur que nous pouvons recevoir des hommes est éphémère. Et les vanités aux yeux de Dieu. Nous devrions et nous devons absolument chercher la grandeur d'en haut. Maintenant, il y a des hommes, de par leur position, de par leur responsabilité, qui jouissent de cette grandeur-là. Mais vivez cette grandeur avec le Seigneur. Soyez grand, tout en ignorant que vous êtes grand. Voyez-vous? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction pour les autres. Ce sont des promesses merveilleuses, mes amis. Ces promesses qui nous montrent la nature même du Dieu d'Israël, du seul Dieu unique et véritable. Il ne s'est pas simplement contenté de faire des promesses à Abraham. Pas du tout. Il lui a donné les promesses, mais il lui a dit, si tu obéis, eh bien ces promesses deviendront une réalité. En effet, avec le temps, ce Dieu qui s'appelle fidèle et véritable, le seul qui a la capacité d'accomplir tout ce qu'il déclare, eh bien ce Dieu-là, le Dieu Amen. Oh, j'aime beaucoup ça. Vous savez, je reviendrai là-dessus. Comme vous le savez, j'ai plusieurs prédications en chantier. Je reviendrai là-dessus, le Dieu Amen. Car dans la plupart des cas, on a réduit cette expression Amen à simplement un terme ou une expression pour clore la prière. N'est-ce pas? Ça devient quelque chose de liturgique. Et Dieu va dire Amen. Mais nous verrons, c'est aussi un attribut du Dieu d'Israël. Le Dieu Amen. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, se présente comme étant l'Amen, l'auteur de la création de Dieu, l'Amen, le témoin fidèle. Oui, le Dieu Amen ne s'est pas simplement contenté de donner des paroles d'espérance à Abraham, des promesses plus que merveilleuses. Ce Dieu-là s'est tenu derrière cette promesse pour les accomplir. Et avec le temps, ce qu'il avait promis à Abraham va devenir une réalité palpable. Les promesses qu'il lui avait faites, des promesses temporelles, mais aussi des promesses spirituelles, vont finir, mes amis, par se réaliser dans la vie du patriarche. Au point où un de ses serviteurs, un homme qui avait vu comment Abraham avait prospéré, lui qui avait quitté son pays d'origine, la Chaldée, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, en suivant simplement la boussole du Seigneur, en faisant simplement confiance au Seigneur, eh bien, de ses serviteurs a vu, mes amis, l'évolution, a vu comment cet homme est allé de gloire en gloire. Cet homme-là témoigne, mes amis, il dit, l'Éternel a grandement béni mon Seigneur Abraham, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et s'il y a un verset qui résume tout cela, c'est ce verset qui nous dit, Genèse 13, verset 2, « Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. » Dieu avait fini par accomplir toutes ces promesses qu'il avait faites avec Abraham. Aujourd'hui, quand nous regardons, mes amis, à l'histoire, eh bien, nous voyons qu'en effet, ce Dieu-là est resté fidèle envers sa parole, fidèle envers les promesses qu'il avait faites au patriarche. Ce Dieu-là a fini par accomplir toutes ses promesses. Alléluia. Abraham n'est pas le seul à avoir été au bénéfice de la grâce du Seigneur. Il n'a pas été le seul à expérimenter les bénédictions de Dieu. Rappelez-vous de Joseph, le fils de Jacob. ce jeune haï par sa propre famille, ce jeune méprisé par ses propres frères, ce jeune rejeté par sa famille, ce jeune qui est parti d'errance en errance, d'épreuve en épreuve, ce jeune qui a connu la souffrance, la misère, dans ce qu'elle a de plus terrible. Ce jeune, lorsqu'il arrive en Égypte, il connaît quelques petits moments de bonheur et puis tout de suite, la souffrance le rattrape. Ce jeune-là va finir par connaître l'élévation, alléluia. Va finir par être béni, voyez-vous. Tant d'autres héros de la foi ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Et un dernier exemple, puisqu'il y a tant à dire, mes amis, c'est celui d'Obed-Edom, de cet homme qui habitait dans une ville philistine, qui habitait la ville de Gath. La Bible nous dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois. 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, de Gath. Et là, le résultat, c'est que Dieu bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alléluia. Il a fini par expérimenter la bénédiction de Dieu. Mes amis, Dieu reste et demeure le Dieu de toute grâce, le Dieu de la bénédiction. Et toute la Bible regorge tant de témoignages à propos d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu d'une manière ou d'une autre. Allez dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, et arrêtez-vous devant cette galerie d'honneur où nous voyons ces héros de la foi, mes amis, dont la vie parle encore aujourd'hui. Eh bien, tous ces héros de la foi ont expérimenté d'une manière ou d'une autre la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, eh bien, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va nous laisser cette parole formidable qui résume tout. Lorsqu'il écrit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Le Dieu qui nous bénit, mes amis, à la lumière de tout ce que je viens de dire, très brièvement, nous voyons qu'il ne fait, aucun doute, il ne fait l'ombre d'aucun doute que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de bénédiction, n'est pas seulement le Dieu béni éternellement, mais il est aussi celui qui veut nous bénir abondamment. Tu dois le savoir, il veut te bénir. Il veut enlever cette malédiction qui s'acharne contre ta vie. Il veut enlever ce pouvoir des ténèbres qui te poursuit, cette ombre de la mort qui est là, comme nous avons prié, comme toutes ces révélations qui sont sorties le vendredi et pour lesquelles nous avons prié pour toutes ces personnes. Oui, Dieu veut nous bénir. Cependant, il est de la plus haute importance que chacun de nous sache ce qu'il doit faire, mes amis, en amont, afin d'expérimenter la bénédiction en aval. Il est donc de la plus haute importance que nous puissions savoir ce que nous devons absolument faire avant, ce qu'il y a comme préalable, pour enfin expérimenter la bénédiction divine. Alors la question, évidemment, est celle de savoir comment. Comment pouvons-nous expérimenter cette bénédiction d'origine divine? Eh bien, à la question de savoir comment, j'aimerais vous dire que seule la Bible a la réponse. Si vous voulez savoir comment être béni, comment jouir pleinement de la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi, eh bien, il ne faut pas se tourner vers tel autre livre dit sacré, ou religieux, pas du tout. La Bible seule a la réponse à cette question. Alors, que nous enseigne-t-elle sur l'expérimentation de la bénédiction divine. Eh bien, une étude, une méditation profonde, une étude profonde de la parole de Dieu nous montre tout de suite que les vraies, les véritables bénédictions, mes amis, ne s'expérimentent pas au hasard. Les vraies bénédictions, celles après lesquelles nous aspirons, eh bien, ne s'expérimentent pas à l'aventure. Elles ne nous tombent pas sur la tête comme un fruit tomberait sur nous lors du passage d'une tempête ou d'une bourrasque ou d'un ouragan. Vous avez déjà vu des ouragans très puissants, des tempêtes très puissantes qui, lorsqu'elles se lèvent, eh bien, emportent avec elles toutes sortes d'objets, même de fruits. Lorsque la tempête frappe, eh bien, les fruits tombent. Et avec la bénédiction, ce n'est pas de cette manière que cela arrive. Il n'y a pas de hasard. Les bénédictions ne naissent pas, ne voient pas le jour dans nos vies comme à l'aventure. On marche, d'une certaine manière, oh, je suis guéri, oh, formidable. Hein? Et toi, le succès est là. Bonjour, succès. Je ne m'attendais pas du tout à toi. Réussite, formidable, tu es là, déco. Je ne m'attendais pas à toi. Eh bien, écoute, puisque tu es là, ben, donne-moi la main. Nous allons continuer la marche. Pas du tout, pas du tout. Alors, si cela n'arrive pas au hasard, alors si cela n'arrive pas à l'aventure, comment ces bénédictions deviennent-elles des réalités palpables et tangibles dans chacune de nos vies? Eh bien, c'est un fait clairement établi à travers toute la parole de Dieu, que les bénédictions sont les fruits que nous récoltons en aval et ce, après avoir semé en amont. Alléluia. C'est donc des choses que nous récoltons, que nous moissonnons en aval, après avoir semé en amont. Il faut donc une préparation, n'est-ce pas? Et même semer n'arrive pas au hasard. L'agriculteur ne se lève pas le matin, il prend un sac qu'il remplit de graines et pendant qu'il s'y flotte, la main dans la bouche, dans la poche plutôt, il jette la semence comme ça au hasard, pas du tout. Avant d'aller ensemencer la terre, l'agriculteur se donne la peine de défricher la terre, n'est-ce pas? D'enlever les épines, d'enlever les pierres, d'enlever tous ces obstacles, de préparer, d'apprêter la terre. C'est seulement après l'avoir défriché qu'il va alors l'ensemencer, qu'il va jeter dans la semence. Donc il y a une préparation, mes amis, une préparation qui précède l'expérimentation de la bénédiction. Voilà pourquoi certains, eh bien, ont des difficultés énormes d'expérimenter la bénédiction. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une préparation. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, ou dans la vie en général, la préparation est une réalité fondamentale. Les gens qui se marient, comme par hasard, tu rencontres une fille pour la toute première fois, oh formidable, votre cœur se met à battre la chamade, tu la regardes et dis, oh là là là, moi je vais la marier, je vais l'épouser. Dis, moi je voudrais te prendre en mariage. Si c'est une fille sérieuse, ben, elle te prendrait pour un malade. Ah oui, oui. Le mariage est une question de vie, oui ou non? On ne s'engage pas pour un temps. On n'entre pas dans le mariage comme on entrerait dans un restaurant. On mange quand on est rassasié. Ah, formidable accueil. Voilà. Dans ce restaurant, j'ai mangé la chikwang, j'ai mangé le foufou, les tchéké, j'ai mangé les frites. Maintenant, je vais aller voir où je pourrais manger des plats grecs. Mais malheureusement, beaucoup considèrent le mariage comme un lieu où on entre illico et on en sort presto. Attention, on y entre pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pour cela, il y a une préparation. D'abord, avec Dieu, on prie pour Alléluia. Et puis ensuite, on cherche, hein. Ouais, pas avec les yeux de la chair. Vous venez à la borne, non pas pour prier, parce que à la télévision, vous voyez des belles filles. Il y en a. Hein? Moi, c'est celle-là. Tu cherches à la télévision, tu la vois deux ou trois fois, donc elle s'assied toujours là. Et tu viens, tu cherches, tu la cherches, deuxième, elle est là, et tu vas t'asseoir là-bas pour attirer son attention. Non, on cherche, mais avec le Seigneur. Seigneur, garde-moi, que je ne me trompe pas. Donc la préparation est indispensable. Dans la vie active, c'est la même chose. On ne s'improvise pas chimiste. Du jour au lendemain, vous commencez à, partout, il dit non, je suis chimiste. Non, on devient chimiste au terme d'un parcours, d'un cursus académique. Donc il y a une préparation, on ne devient pas médecin du jour au lendemain. Nous devons faire très attention. Parce qu'ici, chez nous, ben, tout le monde est médecin. Tout le monde est médecin. On a fait 2 années d'infirmière. Eh ben, c'est fini. On a lu quelques livres de médecine. Et on se présente à gauche, à droite. Non, je suis médecin. Non, on devient médecin au terme d'un parcours difficile, n'est-ce pas? De 7 ans de préparation. De 7 ans de formation. Donc il y a une préparation qui doit être faite en amont, mes amis, si nous voulons bénéficier, jouir de bénédictions en aval. Et la question pertinente est donc celle-ci, que devons-nous faire alors en amont afin de récolter des bénédictions en aval? Que devons-nous semer en amont pour moissonner les bénédictions en aval? Eh bien, la réponse est simple. Nous la trouvons à travers toute la Bible. La réponse reste un des thèmes majeurs de la parole de Dieu. Eh bien, si nous voulons récolter des bénédictions en aval, si nous voulons que les bénédictions, quelle que soit leur nature ou leur forme, qu'elles soient d'ordre spirituel, qu'elles soient d'ordre temporel, peu importe, si nous voulons expérimenter tout cela, mes amis, il nous faut une préparation dans l'obéissance. C'est l'obéissance en amont qui va nous préparer à expérimenter des bénédictions en aval. Donc, la préparation dans l'obéissance, obéissance à la parole de Dieu, parole écrite, obéissance aux injonctions, aux directives du Seigneur, l'obéissance à tout cela, mes amis, va donc nous ouvrir la porte de l'expérimentation de bénédiction. Alléluia. Voilà donc la condition préalable. Si nous voulons expérimenter la bénédiction divine, voilà comment nous pouvons nous préparer. Nous préparer à expérimenter les bénédictions. Lorsque nous prenons la ferme résolution, mes amis, de mener une vie d'obéissance, d'obéir au moindre commandement du Seigneur, là, mes amis, pour chaque obéissance, chaque acte d'obéissance, nous jetons une semence en amont. Oh, alléluia. Pour chaque obéissance à une directive claire de la part du Seigneur, eh bien, nous semons. Et puis, un jour, nous récolterons la bénédiction en aval. Et cette bénédiction pourra prendre n'importe quelle forme. Car le Dieu, notre Dieu, reste le Dieu des surprises. Mes amis, la préparation dans l'obéissance précède la bénédiction divine. Tout comme il n'y a pas de moisson, il n'y a pas de récolte, tant que le sol n'a pas été défriché et ensemencé, de même, il n'y a pas de bénédiction, tant qu'il n'y a pas une vie d'obéissance en amont. Si vous menez une vie de rébellion, si la parole de Dieu ne vous dit rien, vous vous contentez de l'entendre, de l'écouter, et puis après, vous menez la vie comme vous voulez, comment pourriez-vous expérimenter les bénédictions? Non! On ne peut récolter que ce qu'on a. Si on sème la rébellion en amont, on récoltera la destruction en aval. Car on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas, mes amis, traîner le nom de Dieu dans la boue. Vous ne pouvez pas mener une vie de duplicité, une vie d'hypocrisie, une vie, mes amis, de marquée par l'immoralité, par la convoitise, par la cupidité, par l'arrogance. Vous ne pouvez pas avoir un cœur altier tout le temps. Un cœur, mes amis, gonflé, surdimensionné, hypertrophié par l'orgueil et en même temps s'attendre à ce que ce Dieu-là vous accorde ses bénédictions. Non! Dieu résiste à quoi? Il résiste à qui? Aux orgueilleux, à l'arrogance. C'est quelque chose de terrible, je reviendrai là-dessus plus tard. Car nous avons un gardien devant la porte de notre âme. Ce gardien-là s'appelle l'humilité. Renvoyez ce gardien-là et vous prendrez le chemin de la destruction. Mes amis, ne vous prenez pas la tête. Ne pensez pas que vous êtes sortis de la cuisse de Jupiter, que vous êtes nés des entrailles de Vénus. Vous êtes nés d'une femme comme n'importe qui d'entre nous. Si aujourd'hui vous occupez cette position, eh bien cela ne fait pas de vous un homme ou une femme spéciale. Restez humble, rendez grâce à Dieu. Oh, alléluia. J'ai béni Dieu pour des frères et sœurs qui sont dans notre assemblée, qui sont au gouvernement, mais qui sont restés humbles. Ils sont restés humbles. Il n'y a pas très longtemps, une sœur est venue me voir. Elle s'est présentée. Elle n'est pas venue avec des airs comme une reine, imbue d'elle. Non, pas du tout, très humble. C'était au terme d'une prédication. Il m'a dit, pasteur, je suis président de l'assemblée provinciale de telle province. Voilà. Elle est venue écouter la parole et n'est pas venue en autorité. Une seule autorité à l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'ai dit, parce que je vous aime. J'en parlerai là-dessus. C'est une chose terrible. Avec ma petite expérience, ça fait bientôt 35 ans que je suis converti, j'ai vu des gens qui étaient montés sur un piédestal, qui avaient cru qu'ils étaient arrivés au sommet, et que par conséquent, ils n'avaient plus rien à faire avec la plèbe, des gens qui étaient gonflés, au moins surdimensionnés, comme je le dis, hypertrophiés. Je les ai vus être terrassés par le Seigneur. Attention. Alors attention, Église aussi, de dresser de petits piédestals à gauche, à droite, pour faire asseoir les gens et le mettre en valeur. Si on fait ça pour vous, refusez. Parce que ceux qui font ça vous exposent à la mort. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Non, mon frère et ma sœur. C'est peut-être des mots très forts. Mais attention, ta vie est dans sa main. Viens humblement, si toi écoute la parole. À la sortie, nous vous rendrons les honneurs que nous vous devons. Car à tout Seigneur, tout. Mais quand vous êtes là, ne soyez pas imbu de vous-même. Ne mettez pas la poche, dites, mais comment il ne sait pas qui je suis. Dites, pour savoir. Oui, le Seigneur sait qui tu es. S'il t'a amené, c'est pour que tu comprennes ce que c'est la vie. Pour le moment, tu es là sur un petit ekeko. Comment un petit tabouret plutôt. Ekeko, c'est autre chose. Hein. Je dis des choses comme ça, pardonnez-moi. Ouais. Sur un petit tabouret, c'est rien du tout. Charlemagne était assis, soi-disant, sur un trône. Aujourd'hui, il est là. Il est parti. Hein. Tant d'autres se sont assis sur toutes sortes de perchoirs. Sont-ils encore là? Ils sont partis. Toi aussi, tu suivras la même route. Mais malheur à toi, car tu affronteras celui qui se l'est digne d'être sur le trône. En ces jours-là, que pourras-tu lui dire? Je vous l'ai dit parce que moi, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. j'aurai des comptes à rendre. Voyez-vous, quand il me posera la question, qui est le chef de l'Église, je lui dirai quoi? Il dit, c'est toi, Seigneur, ok. Mais je n'ai pas laissé un sous-chef, un joint, hein? Dans l'Église. Hein? Ouais. Cela est aussi vrai pour nous, pasteurs. Car il y en a qui deviennent le centre de l'Assemblée. Quand ils entrent, tout le monde se met debout. Ouais. Voyez-vous, tout le monde se met debout. Il s'assied, on vient essuyer ses chaussures. Où c'est? Dans l'Église. Oh non, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. On donne la parole à n'importe qui. Et là, cette chair est chair. Cette chair est pure. On ne peut pas laisser cette chair à n'importe qui, simplement parce qu'il est président je ne sais de quelle assemblée. Non! Ici, c'est la parole de Dieu. Le jour où je ne prêcherai pas cette parole, je ne serai plus digne de me tenir là. Je m'assiérai là. Quelqu'un d'autre viendra. Lui aussi passera. Un seul est digne. Jésus de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. Oui, expérimentez la bénédiction de Dieu. Il faut des préalables. C'est donc la préparation dans l'obéissance. Alléluia. Oui, comme je l'ai dit, il ne peut pas y avoir de moisson. Il ne peut pas y avoir de récolte si tu n'as pas défriché la terre, si tu ne l'as pas apprêté, si tu ne l'as pas préparé, n'est-ce pas? Si tu n'as pas pris la semence et tu ne l'as pas jetée dans la terre, il ne peut rien avoir. Tu peux être là, prier, intercéder en disant au nom de Jésus, je vois des maïs qui poussent. Je vois des maïs, oh gloire à Dieu. Je vois des manguiers, alléluia. Amen, amen. Tu danses, tu parles même en langue. Quand tu ouvres les yeux, il n'y a rien. Il y a des principes auxquels nous ne pouvons pas déroger. Il faut semer. C'est après avoir semé que lui, le souverain, le Tout-Puissant, va envoyer la pluie. Il va commander à la terre, terre, allez, produit du fruit. En réponse à ce que nous aurons semé. En réponse à la démarche que nous aurons eue. N'est-ce pas? Et gloire à Dieu. Voyons quelques exemples très rapidement, je terminerai par là. Et puis je reviendrai plus tard, parce que le dimanche prochain, ça sera un dimanche particulier, où nous allons faire l'apologie de l'engagement mutuel dans le cadre du mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons honorer certains lauréats, des couples ayant accompli un certain nombre d'années. Donc, ça sera le dimanche prochain, et ça sera donc une occasion pour nous de parler du mariage. Voilà, donc, je renverrai ça au dimanche à venir. Mais voyons, cependant, quelques exemples qui illustrent très clairement cette vérité, c'est-à-dire l'obéissance, qui est donc un travail préparatoire en amont et qui va nous permettre d'expérimenter les bénédictions en aval. Prenons le cas de Naaman. Vous connaissez l'histoire de ce général syrien, chef de l'armée de Syrie. Nous sommes dans le livre de Rois, chapitre 5. La Bible nous dit que c'était un homme important. Ce général était considéré par le roi, était respecté par les peuples, par la population. C'était un homme qui jouissait d'une certaine réputation. Un homme important, deux rois. Ouais. Un homme important. Mais cependant, cet homme, nonobstant son importance, nonobstant la position qu'il occupait, c'était un grand général, n'est-ce pas? Cet homme était atteint de lèpre. Mes amis, il n'y a aucune position que nous puissions occuper sur cette terre qui puisse nous immuniser contre l'adversité, contre l'épreuve. Vous voyez, nous restons fragiles. Nous restons, mes amis, vulnérables. C'est pourquoi Peu importe, mes amis, la position que nous puissions avoir dans la société, restons humbles, car il n'en demeure pas moins que nous restons vulnérables. Eh bien, cet homme était atteint de lèpre. C'était un lépreux. C'était une maladie terrible à l'époque. Ça voulait dire que cet homme était déclaré impur, indigne de partager la vie avec les autres. Donc, sur le plan social, c'était quelque chose de terrible. Eh bien, cet homme apprend un jour qu'il y avait en Israël un homme de Dieu qui s'appelait Élisée le prophète, et que cet homme accomplissait des miracles formidables au nom de Yahweh, au nom du Seigneur. Alors il s'est dit, je vais aller chercher la guérison. Il part en Israël auprès du prophète Élisée, qui ne le reçoit pas, qui lui fait dire par son serviteur ceci, il lui dit, voilà, va te laver 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Voilà. Verset 10. Dans un premier temps, le grand général, dans ses vêtements somptueux, pour cacher la lèpre, hein, n'est-ce pas? Imaginez-vous un peu tous ces soldats-là qui voyaient le chef lépreux. Voyez-vous? Donc, dans ses vêtements somptueux, pour cacher la terrible réalité, une peau qui s'est dégradée, qui s'est dégénérée de jour en jour, ce grand général, dans son orgueil, ce grand général au cœur altier, ce grand général arrogant, est indigné par la réponse du prophète. Ah, moi, le grand général, respecté et respectable, moi, je pensais qu'aussitôt arrivé, cet Élisée-là viendrait lui-même pour me recevoir, n'est-ce pas? Il viendrait, se tiendrait en ma présence, invoquerait le nom de son Dieu, mettrait sa main à l'endroit où j'ai la lèpre, mais il m'envoie dire par quelqu'un que j'aille me laver dans le Jourdain, ce petit Jourdain. Est-ce que chez moi, là, d'où je viens, y a-t-il pas de fleuve aussi majestueux que ce petit cours d'eau qu'on appelle Jourdain? Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'homme, son moi, en prend un coup. Mes amis, les choses de Dieu se reçoivent dans l'humilité. Vous voyez ce que je disais, là? Voilà. Ne venez pas la tête comme ça, hautaine, en disant, j'ai besoin de Jésus, viens, tu pries pour moi. Non. Venez humblement, parce que le Seigneur vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous avez des galons. Il ne vous aime pas non plus parce que vous êtes pauvre. Il vous aime parce qu'il vous a créé à son image. Peu importe votre condition intellectuelle, vous pouvez avoir un cerveau à 10 étages, ça ne lui dit rien. Il n'est pas du tout impressionné. Hein. Vous pouvez avoir des diplômes de doctorat défendus, soutenus dans les meilleures universités du monde. Ce n'est pas ça qui va l'émerveiller. Ce n'est pas ça non plus qui va l'attirer vers toi. Non, il est attiré par toi parce qu'il t'aime. Celui qui t'a créé. Quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait? Est-ce que tu avais déjà des diplômes? Ta maman savait que le petit garçon qui naissait, qui est même né prématuré. Hein, disons-nous la vérité. Dans des conditions bizarres. Voyez? Qui pleurait de nuits entières. Pouvait-elle s'imaginer qu'un jour, ce petit garçon décrocherait tel ou tel autre titre académique, pas du tout. Mais un jour, le Seigneur t'a fait la grâce. Alors ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Cet homme, ce grand général, est indigné par la réponse. Alors il dit non, c'est pas possible. Heureusement, certains de ses serviteurs se sont approchés de lui. Il devait certainement voir comment il souffrait. Vous voyez, ça c'est l'homme. Il souffre, mais il veut rester comme ça. Soi-disant stoïque. Il ne faut pas qu'on voit ma souffrance. Non, 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 non. Dans notre tribu, non, 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 non. Il ne faut pas montrer la faiblesse. Il faut toujours être là. Oui, mais être là. Tu es rempli de dettes. Le costume que tu mets, c'est ton petit frère que tu avais envoyé en Europe qui te l'a amené. Donc aujourd'hui, tu n'as plus rien. Reconnais. Reconnais que tu n'as plus rien. Que les chaussettes là, les orteils sont dehors. Reconnais-le. Ne donnez pas l'impression. Dis non, chez nous. Non, non, non. Il faut rester comme ça. Non. Alors, ces conseillers, il faut avoir de bons conseillers. Il faut avoir de bons conseillers. Ils peuvent vous égarer. Et après, ce qui est terrible, c'est comme Rasputin, hein? Ceux qui connaissent un peu l'histoire des stars, des tsars, en Russie à l'époque. Hein? Ce prêtre-là joue un mauvais tour. Un vrai Rasputin, un rat tout fait, qui s'était introduit à la cour impériale. Mais enfin, heureusement, il avait quelques bons conseils qui ont dit, chef, certainement, ils ont dû l'approcher tout doucement. Chef. Ouais. Hein, chef. Ouais. Hein, chef. Écoutez, vous êtes malade. Vous êtes malade. Qui a besoin de guérison? Lui, le prophète, ça ne lui dit rien. Acceptez simplement. C'est un petit fleuve. Mais Dieu sait pourquoi. Accepte. Malgré, dit, ok. Bon, allez, approche-toi. Prends ma... Allez, prends ma chlamyde. Hein. Vous voyez, ils avaient toujours ce manteau-là de général. Hein. Comme la chlamyde romaine. Prends ma chlamyde. Oui. Allez, tiens-moi la main. Tiens, c'est quel ossard. Vas-y, Ndeko. Vas-y, frère. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Humilie-toi. Et enfin, il entre, mes amis, là. Il se plonge une première fois. Une deuxième fois. Il se regarde. Il regarde ses conseillers. Mais c'est quoi ça? Non, chef, il a dit 7 fois. Okay. Oui, mais c'est la même eau que je me plonge 2 ou 3 fois. C'est ça l'obéissance. On lui aurait pu lui demander 3 fois. Mais si on lui a demandé 7 fois, ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à rationaliser. À essayer de comprendre logiquement, mathématiquement, philosophiquement. Non! Dieu dit, 7 fois, amen. Obéis simplement. Et à la 7e fois, le miracle s'accomplit. La bénédiction tombe sur lui. Quand il sort de l'eau, sa peau devient saine comme celle d'un jeune homme. Tout disparaît. Il regarde. Le voilà qui sourit. Il se dit, non, je ne peux pas repartir comme ça. Je dois aller voir le prophète pour lui dire que son Dieu est le véritable Dieu. Mes amis, et je terminerai par là, tant que le lépreux, tant que le lépreux n'a pas plongé 7 fois dans l'eau, pas de guérison. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Voilà, mes amis, ce que nous devons semer en amont, afin de récolter en aval. Il a semé l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. In fine, ce n'est pas Élisée qui l'a guéri. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le Dieu que Élisée servait. Parce que lui-même va le reconnaître. Oui, il y a en Israël le véritable Dieu. Mes amis, nous verrons d'autres illustrations qui montrent clairement l'importance de la préparation dans l'obéissance afin d'expérimenter en aval la bénédiction. Tous ceux qui ont vécu de cette manière ont été des hommes et des femmes obéissants. Nous avons parlé d'Abraham, mais Abraham, Dieu lui a fait toutes sortes de promesses. Mais il y avait une condition, il devait obéir. C'est-à-dire quitter sa famille, quitter sa patrie et partir sans savoir où il part. C'est seulement à ce prix-là qu'Abraham va expérimenter les bénédictions. Son nom va devenir grand. Regardez, aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Nous n'avons aucun lien charnel avec lui, cependant nous parlons de lui. Aujourd'hui, ses descendants, les Juifs, le peuple hébreu, jouit encore de toutes ces bénédictions. Vous voyez, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail en amont d'obéissance. Alors mon frère et ma sœur, obéis simplement à la parole écrite. Obéis aux injonctions. C'est comme c'était un vendredi, si je termine, il y a tellement de choses à dire. Je vois une jeune fille qui vient vers moi, qui me supplie, « Pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de vous remettre ça. » Il y avait là un billet. Je la regarde, je dis, mais c'est elle qui a besoin de ça. Elle me supplie, « Pasteur, prenez, le Seigneur m'a convaincu de faire ce geste. » C'est ça marché, vous voyez. J'ai pris ça malgré moi, voyez-vous pourquoi? Mais parce que elle a obéi. Dieu lui a dit. Et s'est dit, je ne peux pas ne pas le faire en disant je suis étudiante. Non, Dieu m'a dit, je prends ça, je vais lui donner. Elle voyait que, elle a insisté, parce qu'elle a vu que c'était pas facile pour moi de prendre. Mais j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, rends-lui au centuple. C'est ça les injonctions. Vous voyez, cette fois. Ne demandez pas pourquoi. Voyez, ça aurait pu deux fois, trois fois, Dieu sait pourquoi. Alors obéis simplement. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous, mais aussi pour ta parole. Seigneur, tu nous destines à la bénédiction pour rencontrer cette aspiration dans chacun de nous. Aspiration qui est tout à fait légitime, car tu nous as créés pour la bénédiction. Cependant, il faut que nous remplissions certaines conditions. Il faut que nous rencontrions cette condition préalable, à savoir la préparation dans l'obéissance. Aide-nous à obéir aussitôt que tu nous parles. Aide-nous à marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est marcher dans l'obéissance. Quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi tu nous demandes ceci ou cela. Mais toi, tu le sais. Car c'est la seule manière de déclencher ta grâce envers nous. C'est la seule manière de nous conduire sur le chemin de la bénédiction abondante. Alors aide-nous à avoir des cœurs obéissants. Merci Jésus. Merci également pour ce moment